Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Ibrahim Bayili.
Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, dresse l'état des lieux de la lutte contre le terrorisme. Il rassure que le renforcement de la logistique va se poursuivre. Apollinaire Kilem salue la mémoire du professeur Luc Marius Ibriga. Le Premier ministre est allé présenter les condoléances du gouvernement à la famille du défunt hier. Les premiers bébés de l'année 2023, des jumeaux, ont été accueillis par le ministre de la Santé à Tinkodogo. Il a remis des cadeaux au couple Diallo, parents des enfants. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le capitaine Ibrahim Traoré à Solenzo. C'est une première depuis le début de la crise liée au terrorisme. Le chef de l'État est allé rencontrer les combattants sur le terrain dans cette ville reprise il y a moins d'un mois du contrôle des troupes terroristes. C'est là que le président de la transition a également enregistré son message de nouvel an. Le chef de l'État a dressé l'état des lieux de la lutte contre le terrorisme. Il a notamment indiqué que la tactique a changé. Il rassure que le renforcement de la logistique va se poursuivre afin que les soldats puissent répondre présents là où les populations ont besoin d'eux. Le point avec Bernabé Cabré.
Chers compatriotes,
c'est depuis Solenzo, dans la province des Bamoua, que le chef de l'État a livré son message à la nation, une localité que les forces de défense et de sécurité viennent de reconquérir. Tout un symbole, selon le capitaine Ibrahim Traoré.
C'est le lieu donc pour moi de venir saluer la bravoure de ces hommes qui ont mené ces opérations afin de reconquérir cette ville. Donc c'était le lieu pour moi de venir les saluer et à travers eux, saluer donc tous ces combattants qui sont engagés sur tout le territoire burkinabé. Forces armées nationales, forces de sécurité intérieure, volontaires pour la défense de la patrie.
Les choses bougent sur le terrain. C'est la conséquence de la réorganisation de l'armée entamée depuis l'avènement du MPSR 2. S'il y a un changement de tactique, le chef de l'État promet un changement de stratégie dans les jours à venir. L'appui matériel, lui, est effectif.
Nous avons donc, depuis un certain temps, commencé un processus d'équipement. Et c'est le lieu pour moi donc de dire merci à certains pays voisins qui n'ont ménagé aucun effort pour nous aider à acquérir un certain nombre de moyens aériens et terrestres. Parce que le souhait pour nous, c'est que lorsque les populations demandent les forces, qu'elles soient présentes.
Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas occulté la lutte contre la malgouvernance.
Nous sommes dans un processus de lutte intense contre la corruption et de bien mal acquis. La justice et les contrôleurs ont reçu carte blanche pour commencer à mener la lutte contre la corruption. Et cela peut se sentir déjà sur le terrain.
Un message livré donc depuis Solenzo. L'occasion pour le chef de l'État d'évoquer la nécessité des infrastructures routières. Un programme urgent d'investissement en infrastructures routières a été annoncé pour accompagner l'élan de guerre.
Réaction au discours du chef de l'État, l'ancien ministre Albert Ouédraogo dit douter de la volonté réelle du capitaine Traoré à lutter contre la corruption, surtout au sein de l'armée. Pour lui, aucune guerre contre le terrorisme ne sera gagnée tant qu'on aura des militaires gradés pourris. Écoutez-le.
Dans le discours du président, il y a un élément qui a retenu mon attention. C'est la lutte contre la corruption. Aucune guerre contre le terrorisme ne sera gagnée dans ce pays tant qu'on aura des militaires gradés aussi pourris. Aucune guerre ne sera gagnée dans ce pays tant qu'on sera incapable de les traduire devant la justice. Imaginez que pendant qu'on est en train de se battre pour restaurer le pays, un capitaine s'en va avec 400 millions. Le journal l'a dit. Le président même dit que des investigations seront faites. Moi, je vais bien. Mais le dossier d'Inata, on en est où? Quand il nous avait reçu à Ouaga 2000, avec les organisations de la société civile, on lui a posé la question, et le dossier d'Inata? Il dit, ça fait un mois, lui, il est là, mais il n'a pas encore vu le dossier. Mais c'est un problème. Pourquoi tu n'as pas vu le dossier? Le dossier de Gaskende, ou bien le chef d'état-major même a dit qu'il y avait de la complicité. Il a dit à la radio, on en est où? Mais regardez toutes ces affaires où il y a du moutant, et l'armée est là-bas. Et vous pensez que nous pouvons nous en sortir avec cette armée où c'est la corruption, l'argent, les femmes qui sont les choses les plus importantes dans ce pays? Non, c'est grave.
Théodule Daha, secrétaire aux affaires extérieures du PITJ, a pour sa part attiré l'attention des pays voisins pas encore touchés par le terrorisme à se préparer à y faire face. Pour lui, c'est la richesse de la zone sahélienne qui suscite toutes les convoitises. Il était également votre invité de l'émission Dimanche Politique.
Si les Africains, d'une manière générale, et en particulier la sous-région n'a pas compris que ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Burkina, que ça va se passer chez eux demain. Alors dans ces conditions-là, il vaut mieux ramasser ses clics et ses claques, partir et laisser le territoire, les gens vont venir l'occuper. Cette histoire-là n'est pas une affaire anodine. En 1962, lorsque la France négociait les accords d'Évian, ce qui allait constituer l'indépendance de l'Algérie. La partie sud de l'Algérie, Colomb-Béchard jusqu'à descendre. La France ne voulait pas donner ça aux Algériens. Disait aux Algériens que mais c'est, y a rien là-bas, c'est le désert. Ce n'est pas habité. Les Algériens leur ont dit, c'est pas nous qui avons dessiné les cartes là, hein. C'est vous-même. Donc, cette partie-là, ça fait partie de l'Algérie. Donc, remettez-nous notre Algérie telle que vous êtes venus trouver. Pourquoi ? Parce que c'est plein de richesses. La réalité, c'est ça. Si dans la sous-région, ici, nos présidents-là ne comprennent pas ça, il faut qu'on leur demande pardon. S'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à ramasser leurs clics et leurs claques et puis partir. L'argent qu'ils nous ont pris là, ils n'ont qu'à aller dépenser là-bas. Mais nous, il faut que les gens se réorganisent et il faut que les gens regardent dans le rétroviseur de l'histoire. Parce que ce n'est pas une petite affaire. Hein.
Le Premier ministre chez Luc Marius Ibriga, Apollinaire Quilhem, est allé présenter hier les condoléances du gouvernement à la famille de l'ex-contrôleur général de l'ASELC, décédé le 25 décembre dernier. Notre pays vient de perdre un de ses dignes fils, le docteur Luc Marius Ibriga, a écrit Maître Apollinaire Quilhem de Tambela dans le livre de condoléances. De son avis, Luc Marius Ibriga aurait été des grands combats pour l'éducation, la lutte contre la corruption et le renforcement de la démocratie dans notre pays. Son engagement au sein de notre société et les valeurs qu'il incarnait ont forgé en lui l'image d'un homme très respecté par ses compatriotes. Le Premier ministre était accompagné de plusieurs membres de son gouvernement. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, avait également salué la mémoire d'un homme de conviction qui a su incarner le combat pour une gouvernance vertueuse. Notre nation perd ainsi un de ses valeureux fils qui a consacré sa vie à la formation et à l'éveil d'une conscience citoyenne, libre, intègre et digne, avait réagi le président de la transition. Le programme des obsèques du docteur Luc Marius Ibriga se décline comme suit. Ce matin, une messe de bénédiction a été prononcée à l'église de Saba, près de Ouagadougou, suivie d'une cérémonie de décoration au siège de l'ASELC. La dépouille sera ensuite transportée à Tinkodogo après un passage à l'université Thomas Sankara. Demain, il est prévu une messe d'absout à l'église cathédrale de Tinkodogo, suivie de l'inhumation à son domicile. Restons justement à Tinkodogo où le ministre de la Santé Robert Kargougou a passé le réveillon de la Sainte-Sylvestre dans la capitale de la région du Centre-Est. L'équipe ministérielle a effectué une visite sur le terrain pour être auprès du personnel de la santé. Les premiers bébés de l'année 2023 ont été accueillis par le ministre qui a remis des cadeaux au couple Diallo, parents des jumeaux. Pour Robert Kargougou, cette visite est faite pour être proche du personnel de santé travaillant dans les zones à fort déficit sécuritaire. Les doléances des acteurs de la santé seront prises en compte, a-t-il indiqué. Extrait.
La santé, c'est un service à feu continu. La preuve, pendant que d'autres sont en train de fêter, les agents de santé sont à leur poste, travaillent à soulager les malades de leurs souffrances, travaillent à donner la vie. Et classiquement, au niveau du ministère de la Santé, le 31 décembre, nous nous déportons sur le terrain. Mais cette année, avec le contexte que nous connaissons tous, il était tout à fait indiqué que nous nous déportions sur le terrain, dans une zone à défi sécuritaire, encourager les agents dans le sacerdoce qui est le leur. Et nous avons eu le bonheur d'accueillir, non même pas le premier bébé de l'année 2023, mais je dois dire les premiers bébés de l'année 2023, parce que tout à l'heure, nous venons de voir que les enfants Diallo sont nés dans le cadre d'une césarienne. Et comme vous l'avez vu, la maman se porte à merveille. Nous avons un enfant qui se porte à merveille. Et nous avons le second qui est en soins, à qui nous souhaitons véritablement meilleure santé. Lors de la visite, des doléances nous ont été portées en rapport avec une insuffisance en équipement médico-technique. Sur ce point, nous avons pris l'engagement de faire en sorte que pour un certain nombre d'équipements dont nous disposons, que ces équipements soient mis à disposition dans les tout prochains jours. Il s'agit d'un concentrateur d'oxygène et aussi d'un aspirateur. Pour les équipements dont nous ne disposons pas en stock, nous allons prendre toutes les dispositions que dans les tout prochains mois, nous puissions répondre aux besoins de formation sanitaire.
Au Sénégal, les députés Massa Tassam et Mamadou Niang ont été condamnés ce 2 janvier à 6 mois de prison ferme chacun et d'une amende de 5 millions de francs CFA à payer solidairement. Ils étaient jugés pour l'agression de leur collègue Amine Ndiaye lors d'une séance à l'Assemblée nationale le 1er décembre dernier. Ils ont été reconnus coupables de coups et blessures volontaires. Le Parlement européen a annoncé ce lundi avoir lancé une procédure d'urgence suite à une demande des autorités judiciaires belges pour lever l'immunité des 2 eurodéputés dans le cadre d'une enquête pour corruption au sein de l'institution impliquant le Qatar. Les 2 élus concernés sont l'italienne Andrea Cozzolino et le belge Marc Tarabella, tous 2 appartements au groupe SD, sociaux-démocrates. C'est ce qu'on a appris de sources proches du dossier. L'armée ukrainienne a reconnu ce lundi avoir mené la frappe qui a tué 103 soldats russes dans l'est de l'Ukraine, selon le bilan de Moscou, affirmant avoir frappé jusqu'à 10 véhicules. Le 31 décembre, jusqu'à 10 unités d'équipement militaire ennemi de divers types ont été détruits ou endommagés à Makeyevka, dans la région de Donetsk, a indiqué l'état-major ukrainien sur Facebook, indiquant que le bilan des pertes humaines russes était en cours d'évaluation. La Corée du Nord a limogé Park Yong-chung, deuxième responsable militaire le plus puissant du pays après Kim Jong-un, ont rapporté dimanche les médias d'État. Park Jong-chung, vice-président de la commission militaire centrale du Parti des travailleurs et secrétaire du comité central du parti, a été remplacé par Ri Yong-il lors de la réunion annuelle du comité la semaine dernière, a rapporté l'agence de presse officielle KCNA. C'est ainsi que se referme ce journal réalisé par Edwin Tenderbego. Je suis Ibrahim Bailly. Merci de nous avoir suivis.
Radio Omega, l'info en direct.